Écrit par Gustave Le Nôtre, Le vrai chevalier de Maison Rouge, chapitre 9, La surveillance de la haute police. Il se dégage une singulière impression du dossier d'un homme placé sous la surveillance de la haute police. En feuilletant ces liasses de lettres, de rapports, de notes, on devient spectateur de l'incessant combat du suspect contre le gigantesque poulpe administratif qui l'enserre de ses innombrables tentacules. Du jour où l'arrêt a été prononcé, le malheureux ne pourra plus dire un mot, faire un geste, risquer la plus innocente démarche sans que, derrière lui, à son insu, l'énorme machine aux mille bras ne se mette en mouvement, toujours attentive, toujours silencieuse, toujours présente, toujours invisible. Il ne rentre pas chez lui à l'heure accoutumée. Vite, une note d'un policier subalterne en informe l'autorité. Pousse-t-il sa promenade jusqu'à la ville voisine? Le brigadier de gendarmerie s'émeut et dirige une reconnaissance du même côté. L'a-t-on vu monter en diligence? Aussitôt, le sous-préfet averti fait jouer le télégraphe et à tous les relais, le voyageur est dévisagé, reconnu, signalé, espionné, jusqu'au point d'arrivée où il trouve un fonctionnaire prévenant qui l'invite à reprendre la poste sur l'heure et à rentrer chez lui. Le dossier de Rougeville est d'autant plus intéressant à ce point de vue que le surveillé était plus entreprenant et partant, la police plus soupçonneuse. C'est un duel ininterrompu pendant 10 ans. Duel plein de ruses, de parades habiles, de ripostes inattendues, où les deux adversaires, toujours en garde, ne se quittent pas un instant du regard. Et à ce drame passionnant, rien ne manque. Non, pas même ce ressort obligé de tout bon drame, une femme qui paraît à peine, mais qu'on devine à travers toute l'action, et qui, soit par haine, soit par amour, on ne sait, est la plus acharnée de tous contre l'homme qui l'a repoussée. Et puis, ce qui ajoute du piquant à l'intrigue, ce qui est le comique de la pièce, c'est le dédain dans lequel tous ces anciens jacobins, devenus comtes de l'Empire et fonctionnaires influents, malmènent, en se traitant entre eux d'excellence et de monseigneur, cet intrigant Rougeville, resté fidèle à ses anciens maîtres. Rien n'égale leur platitude envers leur auguste souverain, si ce n'est le mépris que leur inspire ce royaliste énergumène, assez fou pour ne pas trouver que tout est parfait depuis qu'ils ont, eux, les places et les honneurs. Dans cette lutte inégale entre le gouvernement impérial et le proscrit traqué de toutes parts, c'est, sans hésiter, au proscrit que vont la sympathie et l'intérêt. C'est là, du moins, l'impression d'ensemble, car je ne jurerais pas qu'après 100 ans écoulés, le merveilleux comédien qu'était Rougeville ne réussit encore, rien que par les pièces de son dossier, a dupé la postérité comme il a dupé ses contemporains. Qu'y a-t-il de vrai dans ses protestations de dévouement au régime impérial? Qu'y a-t-il de sincère dans les plaintes qu'il exhale sans cesse? Était-il une victime du pouvoir ou un danger pour lui? La question me semble impossible à résoudre. Aussi convient-il de donner ici un simple récit des faits, sans en essayer une synthèse qui risquerait de fausser, en la fixant, la mobile physionomie de l'ondoyant conspirateur. Donc, vers le commencement de Thermidor, en 12, Rougeville arriva à Reims, où il devait rester en surveillance. Il se logea, rue de la Poissonnerie, chez un sieur Lefèvre de Ligny, et se tint tranquille pendant un mois. C'était beaucoup. En Fructidor, il crut le moment venu de tenter une première demande. Il s'adressa à Madame de la Rochefoucauld, la priant de faire accueillir à l'impératrice sa réclamation, exposant le besoin urgent dans lequel il se trouvait d'aller chez lui, mettre ordre à ses affaires et sauver les débris de sa fortune. La lettre parvint à son adresse, mais s'égara dans les bureaux, s'y attarda et finalement resta sans réponse, du moins sans la réponse qu'il espérait, car cette première tentative n'eut d'autre résultat que d'attirer sur lui l'attention de l'administration. Comment ? Rougeville, exilé de chez lui pour un motif assez peu défini, est interné à Reims et il se plaint. Qu'est-ce donc que cet éternel mécontent ? Telle est la question que le ministre posa au sous-préfet de l'arrondissement de Reims. Le sous-préfet répondit que Rougeville était bien sage, que depuis son arrivée à Reims, aucun renseignement défavorable n'avait été recueilli sur son compte, et qu'il jouissait dans son quartier de l'estime générale. Trois mois plus tard, le 7 frimaire en 13, une note adressée au ministre de la police semble solliciter un peu d'indulgence. Rougeville, dit-on, paraît avoir plus d'intention que de moyens. Son Excellence jugera si sa présence, surveillée dans sa commune où il est sans considération et sans crédit, est plus dangereuse que dans la ville de Reims, où d'ailleurs il paraît se bien conduire. Le ministre écrivit de sa main, à journée, et n'y pensa plus. Un mois se passe encore. Un mois, l'éternité pour cet homme qui, de sa vie, n'avait tenu en place et n'était resté inactif. Le 6 pluviose, il reprend la plume. Il a été victime d'une erreur. On veut sa ruine. Qu'on lui accorde au moins l'autorisation d'aller passer 15 à 20 jours à sa terre de Saint-Laurent où ses intérêts le réclament. Le sous-préfet de Reims consentit à appuyer cette supplique et certifia que le pétitionnaire s'était toujours conduit en homme d'honneur et de probité et que sa conduite morale et politique n'avait cessé d'être exempte de tout reproche. Cette fois, le ministre se laisse fléchir et Rougeville obtint d'aller passer deux décades à Arras où il arriva le 22 Ventôse. Sa première visite, forcée, fut pour le préfet du Pas-de-Calais. Sa seconde, également obligatoire, pour le maire de Saint-Laurent. Ses formalités accomplies, il s'installa dans son château. Qu'allait-il faire à Arras ? Ensemencer ses terres et toucher ses fermages ? C'est là du moins le pacifique motif qu'il donnait à son voyage. Mais ce n'était évidemment qu'un prétexte. Il n'y était pas depuis 12 jours que déjà il demandait une prolongation d'un mois qui lui fut accordée. Le maire de la ville, Vaillant, officier de la Légion d'honneur, ex-trésorier de la deuxième cohorte, ayant certifié que la conduite du proscrit était exempte de tout reproche. Ici, entre en scène un nouveau personnage assez pittoresque. Le juge de paix du canton d'Arras Sud se trouvait être un nommé Lefébure qui, par dévouement peut-être, par ambition plutôt, ne répugnait pas à faire en amateur un peu de police secrète. Il correspondait directement, chose étrange, avec le conseiller d'État réal chargé de la police et lui adressait de perfides notes sur l'état de l'esprit public. Je ne sais pas quel motif de haine ce Lefébure avait contre Rougeville. Toujours est-il qu'ignorant, sans nul doute, la mesure indulgente dont celui-ci était l'objet, Le juge de paix glissa à la fin d'un de ses rapports une petite relation ainsi conçue. On a, dans le temps, tant cherché après M. Gonze de Rougeville, sans le trouver. Il est actuellement chez lui, près d'Arras. Il est toujours armé de poignards. Aussi est-il surnommé le chevalier du poignard. La gendarmerie est-elle instruite de tout cela ? Ces mots « chevalier du poignard » sonnèrent aux oreilles de l'administration comme un tocsin. Elle demanda des renseignements au général de brigade Lachaise, alors préfet du Pas-de-Calais, qui menait son département tambour battant. Les renseignements qu'il recueillit sur Rougeville étaient des plus graves. Le châtelain de Saint-Laurent avait laissé traîner sur sa cheminée des croix de Saint-Louis et de Cincinnatus. Il portait en breloque des portraits de Louis XVI et de la reine. Il ne tarissait pas sur ses liaisons avec les Bourbons et sur les faveurs qu'il en avait reçues. Il ne sortait qu'avec des armes cachées sous sa redingote ou dans ses poches. Mais tout cela n'était rien encore. Rougeville n'avait-il pas craint d'assurer qu'il avait dîné à la préfecture ? À la préfecture, songez donc, où on ne l'avait reçu qu'une fois, et en audience publique, le 23 Vendôme, en 13, l'an premier du règne de Napoléon. Se vanter d'avoir dîné à la préfecture, ce seul crime dépassait en impudence tous les autres. Et le brave général préfet donna l'ordre à l'imprudent de repartir de suite pour Reims s'il ne voulait pas y être reconduit de brigade en brigade par la gendarmerie impériale. Rougeville parvint à gagner 4 jours. Le 30 Floréal, en 13, on vint à 7 heures du matin réveiller monsieur le préfet pour lui annoncer que le proscrit était parti, non point pour Reims, mais pour Paris. Vite, un rapport à monsieur Réal. Ce rapport est une perle. 2 points. Ce prétendu marquis, dit le préfet, n'est qu'un simple aventurier, fils d'un fermier de l'octroi des eaux de vie, assez riche pour remplir un état honnête. Je persiste à croire sa présence non pas dangereuse, mais déplacée. Il ne parle que de son attachement à la maison des Bourbons, et sous prétexte que les opinions sont libres, il ne dissimule aucun de ses sentiments. Si on lui rendait la liberté, monsieur le conseiller d'État, il n'en jouirait ici qu'avec un bon brevet de votre main, car s'il s'avisait d'y reparaître sans cette cuirasse, je vous déclare que je mets le cachet préfectoral à son brevet de démence et qu'il couchera dans l'une des chambres des Baudets que je ferai matelasser en le mettant au régime de la soupe 2 fois par jour, des bains froids et de la saignée tous les dimanches. Rien ne désenchante l'amour-propre comme la certitude de passer quelques semaines aux petites maisons. Cependant, Rougeville courait sur la route de Paris. Quand il y arriva, sa présence était déjà signalée. Le 13 Prairial, il y fut arrêté et conduit à la police où on lui fit signer l'engagement, cautionné par 2 personnes amies, de retourner immédiatement dans le département de la Marne. Vaincu, il obéit et se réinstalla à Reims. Mais il réussit bientôt à tromper la surveillance étroite dont il était l'objet. 1 mois ne s'était pas écoulé que le bruit courait à Arras que le marquis de Rougeville se trouvait de nouveau à Saint-Laurent. Le citoyen Lefébure en donna directement avis à Réal. « Samedi dernier, écrit-il, la gendarmerie est allée à Saint-Laurent pour arrêter Rougeville, le chevalier du poignard. Ils l'ont manqué, attendu qu'ils se sont donnés à connaître à sa domestique, laquelle leur a dit d'attendre un instant qu'elle allait allumer une chandelle, pendant lequel temps elle a parlé à son maître et il s'est sauvé avec son fusil. Rougeville regagna Reims en toute hâte, et si l'on accepte la dénonciation de Lefébure, cette nouvelle fugue à Arras semble avoir passé inaperçue. Mais le but, encore aujourd'hui mystérieux, qu'il poursuivait, nécessitait bien impérieusement sa présence en Artois, car, à peine revenu au lieu de sa surveillance, il supplie de nouveau le ministre de lui accorder un séjour de 3 mois à Saint-Laurent. Il proteste de son innocence, il jure que ses ennemis volent sa perte, il accuse Verdevoix, le maire de Saint-Laurent, d'être l'un des plus implacables, et il suppose que cette inimitié provient d'un conflit d'intérêts depuis longtemps existant entre eux. Il offre de livrer tous ses papiers, toute sa correspondance, de prouver qu'on l'a calomnié. Et s'il est vrai que l'innocence a un accent particulier, il faut reconnaître que Rougeville se l'est assimilé d'une façon remarquable, car sa lettre est celle d'un honnête homme qui ne demande qu'à vivre en paix et dont la bonne foi paraît indiscutable. La respectable liasse que forment ces nombreuses et périodiques requêtes est à juste titre curieuse à feuilleter. On devine avec quel soin le proscrit les rédigeait. On sent que dans ses chétives feuilles de papier, il mettait toute son éloquence, tout son espoir. Il les suivait par la pensée, se représentant le ministre, discutant le cas, pesant mûrement les décisions à prendre. Naïveté. Au reçu de chacune de ces missives, quelques chefs de bureau pressés griffonnaient hâtivement en marge. Qu'est-ce que ce Rougeville ? Puis, la paperasserie commençait son œuvre lente, la feuille passait de la première division à la deuxième, montait aux archives, revenait au bureau d'ordre, et après 1 mois ou 6 semaines de pérégrination, réapparaissait sur la table du chef du bureau, agrémentée d'une mention dans le genre de celle-ci. « Homme dangereux, ennemi du gouvernement, rien à faire. » Et le fonctionnaire, placidement, reprenait la plume et ajoutait « à classer ». Pendant ce temps-là, Rougeville se rongeait les poings d'impatience et de rage. Pourtant, par un hasard invraisemblable, sa lettre du 30 Messidore, en 13, tomba sous les yeux d'un employé moins blasé qui prit la peine de la lire, demanda le dossier du personnage, se permit de remarquer timidement qu'il ne pouvait s'empêcher de donner quelque créance aux récriminations de Rougeville. Si partout on peut le supporter hors de sa commune, il faut bien qu'il y ait quelque motif particulier d'opposition ou de haine locale. Ne pourrait-on l'envoyer pour 2 mois, non à Saint-Laurent, mais à Arras ? Non, répond Réal, je connais cet homme, rien à faire. Cette fois, le coup fut rude. Si rude que Rougeville resta plus d'un an sans solliciter d'adoucissement à sa peine. Il s'était résolu à acheter à Balieu, près de Reims, un château et une terre qu'il faisait valoir. Il paraissait absolument désintéressé de la politique. Les rapports adressés au sous-préfet le notaient comme un homme d'une probité peu commune. Et les autorités locales n'avaient jamais eu à surveiller malfaiteurs plus calmes et plus rangés. Cette bonne conduite lui valut, à la fin de 1805, une permission de 6 semaines avec autorisation de se rendre à Arras. Il partit. Tout se passa bien jusqu'au 21 janvier 1806. Ce jour-là, un agent vint annoncer au préfet, terrifié, que le châtelain de Saint-Laurent avait pris, pendant la nuit, la diligence pour Paris, en négligeant de prévenir les autorités. Le ministre de la police, prévenu par courrier, fut pendant quelques jours en proie à une inquiétude mortelle. Il voyait déjà l'empereur assassiné, ce qui était son perpétuel cauchemar. On chercha Rougeville dans tout Paris, mais il demeurait introuvable. Lorsqu'une lettre du préfet de la Marne vint informer l'administration qu'à l'expiration de ces 6 semaines, le proscrit était exactement venu reprendre sa chaîne et que, depuis son retour, il vivait à Reims aussi tranquille et aussi retiré qu'avant son départ. Il serait fastidieux de suivre plus longtemps cette interminable comédie. Pendant 10 ans, Rougeville ne se lassa pas de demander. Le ministre ne se lassa pas de refuser. En marge d'une lettre, je trouve cette mention de la main d'un fonctionnaire résigné. Faire pour la 30e fois un nouveau rapport. Voilà qui résume en une ligne toute cette période de la vie de l'incorrigible conspirateur. Parfois, ses supplications sont si touchantes qu'elles arrachent à l'autorité une permission de 15 jours ou de 3 semaines, et vite, il court à Arras, qui semble être pour lui le seul endroit du monde où l'on puisse vivre. Parfois, il s'échappe et vient passer un jour à Paris. Mais si l'on peut suivre ainsi, au travers des délations, des notes, des dénonciations, dont il est le continuel objet, tous ses pas et toutes ses démarches, sa vie n'en reste pas moins mystérieuse et inexplicable. Que venait-il faire à Paris? Quelle importante besogne l'attirait ainsi à Arras? Voilà qui reste impénétrable, et l'on serait presque tenté de croire, tant son rôle est bien joué, qu'il a renoncé à conspirer et qu'il s'est résolu à vivre comme tout le monde, si ses antécédents et sa fin tragique, que nous aurons bientôt à compter, n'étaient là pour donner à cette hypothèse le démenti le plus absolu. Mais si nous renonçons à compter les coups dans la lutte qu'il avait engagée contre la police, nous ne pouvons cependant passer sous silence certains faits qui vont nous le montrer sous un aspect nouveau et assez inattendu. En mai 1806, il conjure le ministre de supprimer la surveillance qui pèse sur lui et qui nuit à son établissement. Il va se marier. Ceci parut d'abord invraisemblable, et l'on ne vit dans cette confidence matrimoniale qu'un moyen inédit d'attendrir l'administration. Il fallut bien se rendre à l'évidence, lorsqu'on apprit que le 23 octobre, il avait épousé à Soissons, au cours d'une permission de 2 jours accordée par le préfet, Mademoiselle Boquet de Liancourt. Le ministre lui accorda, à l'occasion de son mariage, 15 jours de vacances qu'il employa à conduire sa jeune femme à Arras et à Saint-Laurent. L'année suivante, Rougeville obtient que le lieu de sa surveillance soit transféré à Soissons. Mais voilà qu'il lui naît un enfant et il éprouve immédiatement le besoin de faire baptiser cet enfant à Paris, où est domicilié un vieillard de 90 ans qu'il choisit pour parrain et qui est trop débile pour entreprendre le voyage de Soissons. Ce prétexte original était trop touchant et trop familial pour qu'on pût rejeter sa requête. D'ailleurs, le préfet de l'Aisne ne cessait de rendre témoignage de l'excellente conduite de l'heureux père, et Rougeville vint passer à Paris le mois de juin 1808. Il s'y logea rue du Faubourg Poissonnière, au numéro 6, chez M. Boquet, aïeul de sa femme sans doute, et il profita de son séjour pour aller en personne solliciter sa grâce, qu'on lui refusa, et réclamer à la police les papiers et effets saisis à Saint-Laurent en l'an 12. Effet qu'on lui rendit, hors son ruban et sa croix de l'ordre de Saint-Louis. Au mois d'octobre de la même année, ayant émoussé, à force de supplications, l'attendrissement de toute la hiérarchie administrative, il écrit à l'empereur. Si l'on songe que celui qui rédigea ces lignes avait voué sa vie aux Bourbons et exécrait, avec quelques raisons, le régime impérial, on aura une idée des proportions gigantesques que prenait, aux yeux de ses ennemis même, le héros de la Révolution parvenu à l'apogée de sa puissance. À Sa Majesté l'Empereur et Roi, sire, étant privé du bonheur de pouvoir parvenir jusqu'au pied de votre trône et y réclamer la justice de votre Majesté impériale, je viens de supplier Son Excellence, votre grand maréchal, d'avoir la bonté de se charger de ma juste réclamation. Sire, je le répète à votre Majesté, je n'ai rien à me reprocher. J'ai donné, au contraire, en tout temps, des preuves de ma soumission aux lois de mon pays, d'attachement au gouvernement, de respect et d'admiration pour votre auguste personne. Je puis même ajouter que je n'ai cessé de m'occuper, dans tous mes moments, à ce qui peut être avantageux et glorieux à votre Majesté. Elle peut s'en convaincre par plusieurs réflexions que j'ai eu l'honneur de lui soumettre il y a 2 ans et qui ont pour but une unité essentielle pour mon pays, pour les finances de votre Majesté et dont je me trouverai infiniment heureux si elle les trouve dignes de quelque considération. Depuis 1792, je n'ai cessé d'être persécuté. J'ai souffert même au-delà de la force de l'homme. Sa Majesté peut s'en convaincre par le mémoire que je prends la liberté de lui soumettre. Mais il y a longtemps que j'ai tout oublié pour me livrer, sire, au plaisir de votre triomphe. Plaire à mon nouveau roi et fixer sa confiance, voilà mes désirs et mon bonheur. Sire, ce qui me toucherait le plus aujourd'hui ne serait point la privation de ma liberté ni la ruine de ma fortune. Ce serait la perte de vos bonnes grâces et le malheur d'oser vous déplaire. Hélas, ces platitudes, tracées de cette même main qui avait écrit à la reine dans son cachot le dernier mot de consolation et d'espoir qu'elle devait recevoir, ces platitudes n'eurent aucun succès. En marge de la supplique calligraphiée se trouve cette mention. Ce dont je me souviens bien, c'est que Rougeville a avoué, s'est même vanté, d'avoir proposé de faire introduire au milieu de la salle de la Constituante un baril de poudre pour faire sauter l'assemblée entière. L'aveu de cette exécrable machination qui lui donne une initiative dans l'affaire de Trois Niveaux, est consignée dans un mémoire écrit et signé par lui. Un pareil homme, qui depuis n'a cessé par ses intrigues d'agiter le pays où il demeurait, doit s'estimer très heureux que la police n'ait pas fait autre chose que de prononcer sa mise en surveillance spéciale. Faire remonter à Rougeville la responsabilité initiale de l'attentat de la machine infernale, parce qu'il avait médité, 10 ans auparavant, de faire sauter l'Assemblée constituante, ceci me paraît être le comble de la déduction policière. Évidemment, l'administration, malgré les rapports favorables des préfets, avait la détermination bien arrêtée de ne pas se laisser attendrir. Rougeville était-il donc desservi près d'elle? Oui, Louise Lacouture, devenue presque folle d'amour, ne lui pardonnait pas de l'avoir repoussée. On l'avait arrêtée à Arras, au domicile de la veuve Briouat, rue des Sœurs de Charité, dans cette même nuit du 24 Vendôme an 12, où les gendarmes avaient tenté par surprise de s'emparer de Rougeville à Saint-Laurent. Elle s'était laissée conduire sans résistance à la prison militaire, d'où le même jour elle fut extraite pour être dirigé, sous bonne escorte, vers Paris, comme prévenu d'intelligence avec les conspirateurs. On l'interna pendant quelques jours aux Madelonnettes, mais les interrogatoires qu'on lui fit subir montrèrent qu'elle était loin d'être dangereuse et que la malheureuse se souciait peu de politique. À toutes les questions qu'on lui posa, elle répondit qu'elle voulait vivre avec Rougeville et rentrer dans son argent. Elle ne savait, au surplus, rien de la conspiration et n'avait jamais entendu prononcer les noms de Cadoudal et de Dumouriez. L'enquête révéla que la pauvre femme avait un enfant. On la remit en liberté et tout de suite, avec une rage tenace, elle se lança à la recherche de son infidèle. On lui avait bien dit que Rougeville était envoyé à 40 lieues d'Arras sous la surveillance de la police, mais on lui avait caché le lieu exact de sa résidence. Elle sollicita d'abord de Monseigneur le grand juge de l'Empire de France la permission d'aller vivre sur les biens de son amant jusqu'à ce que sa dette soit payée. Puis, réfugiée chez un sieur aux Dunes, rue du Faubourg Saint-Jacques, elle écrit à Rougeville lui-même et comme elle ignore son adresse, elle remet sa lettre à la police dans l'espoir qu'on la fera parvenir. « Oh, vous, dit-elle, qui me devez l'existence même, que vous me priâtes de vous confier les effets qu'avec probité et loyauté vous m'avez invité d'aussi bonne foi que moi de recevoir la vie à votre maison de campagne. » Jusqu'à ce que du moins vous ayez satisfait à cet engagement avec moi sur la somme de mes 8 000 francs et au moins ayant formé 1 600 au plus vivant de nous trois, mon enfant et de moi, dont les tourments et l'inquiétude me font dépérir. Comme il ne nous est pas possible de nous voir pendant votre exil, mon cher monsieur Rougeville, veuillez au moins m'écrire quel engagement prenions-nous de votre côté. Vous n'êtes que trop sûr que je préfère ceux qui sont à votre profit, etc., etc. » Rougeville ne répondit pas, et pour cause, il n'avait pas reçu la lettre. Alors la femme Lacouture s'adresse à l'empereur. « Sire, vous seul avez tout pouvoir de sauver mes 1 600 francs. Si j'obtiens votre ordre, mon âme sera sauvée de tout risque de perdre l'existence que je reçois de l'humanité de respectable dame rue du Mont-Blanc, numéro 18. » Elle conjure Sa Majesté de n'accorder qu'à elle la grâce de Rougeville, espérant encore que par reconnaissance l'infidèle consentira à reprendre la vie commune. Est-il besoin de dire que sa supplique resta sans effet? Le hasard la servit. Un jour de juillet 1806, elle rencontra Rougeville sortant d'une maison de la rue Saint-Martin. Il lui confia qu'il était en surveillance à Reims, mais qu'il s'échappait souvent pour venir à Paris sous un faux nom et qu'il y logeait à la Chaussée-d'Antin chez des amis sûrs. Elle crut ses malheurs terminés. Quant à lui, il ne laissa pas échapper cette occasion de lui faire appel à la clémence de l'empereur et le résultat de cette rencontre fut une nouvelle requête à Sa Majesté que signa la femme Lacouture, mais que dicta Rougeville. Ceci ne peut laisser aucun doute, si l'on compare l'orthographe et le style de cette pièce à ceux des précédentes. Daignez, sire, comme justice ou comme grâce, lui accorder la liberté de retourner à sa terre où sa présence est nécessaire, tant pour ses intérêts que pour ceux de l'exposante, à laquelle il avait donné l'espoir d'unir son sort au sien. Par cet acte de bonté et d'indulgence, votre majesté mettra un terme au malheur d'une femme que l'absence du sieur Rougeville prive du peu de fortune qui lui reste. Elle consacrera les restes de son existence à publier les preuves de vos bontés et continuera d'adresser au ciel les vœux les plus ardents pour la conservation du héros qui fait la gloire et le bonheur des Français. Ceci est du pur Rougeville. Ce fut là, d'ailleurs, le dernier service qu'il demanda à Louise la Couture. La tentative n'ayant point réussi, il abandonna définitivement la malheureuse femme. En proie à un désespoir voisin de la folie, elle s'attache alors à ses pas, épie toutes ses démarches, dénonce à la police toutes les fugues qu'il fait en secret. Un jour, elle l'a vu descendre à l'hôtel de l'Univers, rue Croix des Petits Champs. Une autre fois, elle l'a rencontré accompagnée de sa ville mercenaire. Ou bien, elle demande d'aller retrouver à Reims cet homme qui lui a si tellement troublé les sens. Et tout à coup, elle se calme, ses plaintes incessantes prennent fin. Rougeville vient de se marier. Un point reste inexplicable. Rougeville avait épousé, on l'a vu, une demoiselle Boquet de Liancourt. C'est un sieur Boquet qu'il choisit comme parrain de son premier-né. C'est chez lui qu'il demeure, rue du Faubourg Poissonnière, au numéro 6, lorsqu'il vient à Paris. Eh bien, c'est aussi chez un sieur Boquet, demeurant également 6 rue du Faubourg Poissonnière, que s'était réfugiée en 1793 Louise la Couture, abandonnée une première fois par Rougeville à l'hôtel des Tuileries. Faut-il croire que c'est par l'entremise de sa maîtresse qu'il aura été mis en relation avec la famille de sa femme? Quelle nouvelle comédie joua l'incorrigible intrigant? Comment parvint-il à duper une fois de plus Louise la Couture et à lui faire accepter la séparation? Ce sont les derniers points d'interrogation que nous aurons à poser, mais ils ne laissent pas que de piquer vivement la curiosité. Désormais, Rougeville, à Sagy, vivra alternativement à Bas-Lieu et à Soissons, où il est parvenu à fixer sa surveillance. Les autorités n'auront plus à donner sur son compte que d'excellents renseignements. Il est bien décidé à ne plus faire parler de lui. 20 projets. Ce n'est pas impunément qu'on s'est joué pendant 15 ans de toutes les conventions sociales et de toutes les lois. Une telle succession de conspirations et d'intrigues avait fait de lui, pour ainsi dire, un homme d'une essence particulière, impatient du calme, ardent aux aventures, et lui ménageait un dénouement plus en rapport avec le roman de son existence.